pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un d'assez impulsif, d'assez nerveux. À côté de ça, vraiment passionné, qui va à fond ma passion. C'est venu vraiment progressivement, comme je le dis au départ, c'est les déplacements, c'est un peu un effet de groupe où on fréquente toujours les mêmes personnes et finalement on en vient. La rivalité atteint tellement un certain point qu'il y a des fois ça en débouche à des confrontations. Et après les premières confrontations, pardon, bah c'est vrai que pour ma part, j'ai eu le petit buzz qu'ils appellent le buzz, c'est les petites montées d'adrénaline, se faire un petit peu peur, avoir le contact. Et c'est ce qui a. C'est pas ce que je recherche avant tout, moi c'est loin d'être la priorité. Ma priorité, comme la plupart de mon groupe, c'est de suivre mes couleurs. Mais après, s'il y a moyen d'en arriver au moins, on y va.
A sweet and tender hooligan, hooligan, and he said that he never, 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 never do it again.
Dimanche 23 janvier 2011, nous sommes dans les environs du stade Constant Van den Stock à Anderlecht. La foule se dirige en masse vers le Parc Astrid et pour cause, ce soir, le Royal Sporting Club d'Anderlecht joue contre le Standard de Liège. La rivalité entre ces deux équipes est très forte, surtout depuis la renaissance sportive des Liégeois. Si la tension sera maximum sur le terrain, ce sera encore plus le cas dans les tribunes. Depuis toujours, les supporters des deux camps entretiennent une haine viscérale les uns pour les autres. Cette haine a souvent débouché sur des incidents graves. Cédric Vindevogel est responsable steward de la tribune 4, celle où se rassemblent les supporters les plus turbulents du club bruxellois. Son rôle est de veiller à la sécurité des spectateurs.
C'est vrai que c'est un match particulier, ça va être un match tendu. Surtout dans les tribunes, sur le terrain on ne sait pas encore, c'est pas notre problème, mais ce sera un match tendu dans et à l'extérieur du stade. Donc on essaye de préparer ça au mieux, on sait quels sont les points d'attention auxquels on doit particulièrement faire attention. Donc on essaye de préparer ça au mieux quoi.
Jusqu'à maintenant pas d'incident, on a une heure avant le match.
Non, visiblement il n'y a encore rien, c'est assez calme. Donc pour le moment, rien.
Vous n'avez pas d'écho comme quoi il y aurait des rendez-vous prévus, des incidents prévus ?
Des rendez-vous, je pense pas. J'en ai pas entendu parler. Maintenant, il y en aura certainement qui vont essayer de rentrer avec des fumigènes, avec des feux de Bengale, avec des drapeaux un peu plus acerbes, enfin avec des messages un peu plus acerbes dessus. Mais pour le moment, il n'y a rien de tout ça qui ressort. Quoi. Donc on verra quand ça va commencer.
Une heure plus tard, le match peut commencer. Au fur et à mesure que le chronomètre avance, la tension monte et les insultes s'échangent entre supporters des deux camps. Cependant, la violence n'est que verbale et non pas physique. Les fans du Standard qui ont fait le déplacement à Bruxelles sont bien encadrés par la police. De plus, ils savent ce qui les attend s'ils ont le malheur de faire un pas de côté. De lourdes amendes et une IDS, une interdiction de stade. Finalement, ce sont les joueurs anderlectois qui ouvriront le score les premiers et remporteront la partie par 2-0. La fin du match se passe sans encombre. Une fois le match terminé, les supporters liégeois s'en retournent dans leur car, qui seront escortés par la police jusqu'à la sortie de Bruxelles. Si aujourd'hui ce match à risque s'est bien déroulé et qu'aucun incident n'a été à déclarer, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, dans les années 80 et 90, les hooligans belges faisaient régner la terreur dans les stades. Ils étaient réunis en noyau dur qu'on appelait des sides, ils s'inspiraient des hooligans anglais et étaient reconnus dans toute l'Europe pour leur extrême violence. À l'époque, le O-side à Anderlecht, le L-side du Standard, le East-side à Bruges et surtout le X-side à l'Antwerp étaient les quatre principaux groupes du pays, même si quasiment chaque club de Division 1 possédait son noyau dur. Manuel Comeron, criminologue, se souvient de cette période sombre.
C'était partout, hein, partout en Europe. Ils étaient localisés dans un bloc bien précis, d'où le nom. Ben, ici, au Standard, c'était Hellside, côté Enfer. Anderlecht, c'était Ostside, le bloc haut. Bruges, c'était East. Side, c'était le bloc Est. Donc, ils étaient assez facilement repérables. Et en plus, bon, ils ne faisaient rien pour passer inaperçus aussi. Ils étaient assez visibles. Parce qu'on parle aussi de la fin, enfin, du début des années 90, où la situation en termes de hooliganisme en Belgique est vraiment très, très chaude. Il y a des incidents, notamment au Standard, à quasiment tous les matchs. Et ce sont des noyaux durs aussi qui se battent entre eux, mais qui n'hésitent pas non plus à attaquer la police. On a connu à l'époque des matchs, je me souviens, Standard Antwerp, où après le match, il y avait une dizaine de policiers qui se retrouvaient à l'hôpital, mais vraiment très sérieusement blessés. C'était, y avait des bagarres aussi. Bon, ils arrachaient les grillages, montaient sur le terrain pour se bagarrer. Donc, Enfin, c'était une époque assez, c'était assez chaud quoi, en matière de hooliganisme.
Qui plus est, non content de créer de nombreux incidents en Belgique, les hooligans belges et leurs homologues hollandais ont trouvé la parade pour augmenter le nombre de bagarres dans les stades. JT est ce qu'on appelle un ultra inferno, un supporter fanatique du Standard de Liège. Il se souvient de ses alliances belgo-hollandaises.
Les quatre grosses sides en Belgique à l'époque, donc Bruges, Anvers, Anderlecht et au Standard, avaient tous une amitié avec un side hollandais. Donc c'était aussi une occasion, vu que c'était la même mentalité, c'était deux pays assez proches qui avaient le même phénomène de side et d'hooligan plus ou moins à la même période. C'était aussi une manière de multiplier les rencontres entre sides.
Si aujourd'hui les matchs se déroulent généralement sans encombre, c'est parce que les autorités ont pris conscience de la gravité du problème et ont décidé d'éradiquer le hooliganisme des stades belges. De nombreuses mesures essentiellement répressives ont alors été adoptées. Le criminologue Manuel Comron témoigne.
C'est dans les années postérieures au drame du Ezel, donc 1985, catastrophe en Belgique, finale de la Coupe des Champions, et on se rend compte qu'on prend beaucoup de mesures, enfin en tout cas, on va prendre beaucoup de mesures les premières années, mais qui seront des mesures, on se rendra compte après, essentiellement policières et d'infrastructures. Donc ce seront surtout des moyens en termes d'encadrement policier des supporters et de gestion de la sécurité lors des matchs de foot. Donc à l'époque, on ne parle pas non plus du tout de stewarding, par exemple, donc c'est vraiment strictement policier, mais aussi... On n'est pas encore arrivé à l'ère des Robocop de l'Euro 2000, mais c'est malgré tout ces policiers, ces casques matraques, etc. Donc on est vraiment dans la philosophie du law and order. Et à côté de ça aussi, tirant expérience du stade du Ezel qui était vétuste, et on avait pu se rendre compte que la mauvaise infrastructure avait aussi joué un rôle dans la catastrophe. Tous les stades en Belgique vont être inspectés. C'est la fameuse commission Magot de l'époque. Et aussi... les clubs vont recevoir un cahier des charges qui doivent répondre à certaines normes de sécurité. Donc, c'est surtout à ce niveau-là.
De grandes améliorations au niveau de la répression et des infrastructures, donc. Mais pas seulement, car des mesures de prévention ont également vu le jour, comme les stewards, mais aussi et surtout le programme Fan Coaching, apparu au début des années 90. Manuel Comron, l'initiateur de ce programme en Belgique, nous explique en quoi il consiste.
Des éducateurs, des travailleurs sociaux, encadrés soit par des psychologues ou des sociologues, mais qui vont... travailler directement sur le terrain. Donc c'est le fameux concept de l'époque qu'on va appeler prévention offensive. Donc de manière proactive, ces éducateurs vont aller vers le public, ça veut dire dans la tribune. Et ensuite, pendant la semaine, ils vont organiser des activités, que ce soit sportives, culturelles, etc., avec les supporters. Et en même temps, apporter un soutien social aux supporters qui sont en difficulté, ce qui pour l'époque est complètement innovateur dans le milieu du foot. Personne n'aurait imaginé quelques années avant qu'on aurait eu des éducateurs ou des psys dans les stades de football.
Si l'efficacité du fan coaching dans les années 90 est avérée, certains estiment que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bertrand Finker, criminologue à l'Université de Liège, a longtemps participé à la mise en place du fan coaching.
Ce qui me semble certain, c'est qu'aujourd'hui, il est plus efficient. Ça me semble sûr. À nouveau, parce que les réponses... Le programme est toujours le même, alors que le problème a complètement évolué. Les gens sont différents. Le fan coaching ne travaille pas... Même si ça, c'est pas ça. Pas en termes de vocation, mais je veux dire, il se fait qu'il ne travaille pas avec les ultras. Alors que précisément on craint une radicalisation de la scène ultra, on pourrait dire que ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe chez eux, mais il n'y a pas de travailler avec les ultras.
Les ultras sont un nouveau type de supporters fanatiques qui copient leurs homologues italiens en organisant ce qu'on appelle des tifos, des animations visuelles dans les tribunes. L'arrivée de ces ultras dans les stades belges expliquerait l'inefficacité actuelle du programme fan coaching. Mais ce n'est pas l'unique explication.
Aujourd'hui, clairement, je pense les
Bertrand Finker.
Les gens qu'on va retrouver dans le hooliganisme, il y a toujours des marginaux, mais c'est beaucoup plus diversifié. On retrouve de tous les profils, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, même si, j'allais dire des jeunes et des vieux, même si on trouve peu de très jeunes, hein, des adolescents, je pense que c'est vraiment rarissime, mais... Vraiment, pour moi, c'est ça, la diversification. Diversification complète, en fait, de ce que sont les supporters à risque. D'où ce qu'on disait tout à l'heure aussi, peut-être l'évolution à apporter au suivi social ou au travail social qui est entrepris avec les supporters. On ne peut plus traiter aujourd'hui les supporters comme des gens où la réponse serait de la réinsertion, de l'intégration, je sais pas, mais du soutien, de l'aide au logement, de la stabilisation professionnelle, financière. Sans doute qu'il y en a toujours qui en ont besoin, hein. C'est évident. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça le gros des bataillons.
Il serait donc nécessaire de revoir le modèle de fonctionnement du fan coaching, mais ce programme n'était pas la seule mesure préventive qui avait pour but d'aller au contact des supporters les plus violents de l'époque. Les années 90 ont également vu apparaître ce qu'on appelle des spotters. Ces policiers en civil chargés d'infiltrer les noyaux durs sont actuellement toujours actifs.
En fait, le rôle d'un spotter...
Olivier Miclotte, spotters à la police d'Anderlecht, nous explique son rôle.
C'est de connaître avant l'événement tous les risques qui pourraient se produire lors de la rencontre de football, à savoir si une confrontation est planifiée, le nombre de supporters à risque, donc en l'occurrence ici le BCS à Anderlecht, qui se rendraient au stade et leurs intentions. Pendant la rencontre, notre but c'est de les surveiller et de signaler tout mouvement ou toute intention aux dirigeants du service d'ordre afin qu'il puisse lui prendre les décisions nécessaires pour placer le dispositif policier.
Olivier Miclotte est chargé d'accompagner les hooligans d'Anderlecht qui se font appeler le BCS, le Brussels Casual Service. Il précise que son rôle n'est pas de sévir, mais plutôt d'être un intermédiaire entre les forces de police et les hooligans.
Nous, à la base, on n'est pas fait pour rédiger les procès-verbaux. Nous, on est là pour aider un maintien d'ordre et pour justement signaler les troubles qui pourraient se dérouler. Effectivement, quand on constate quelque chose, que les images sont filmées, on ne va jamais cacher une identification. On va confirmer, oui, effectivement, cette personne-là fait partie des troubles. Oui, des procès-verbaux seraient laissés. Nous, on ne dresse plus les procès-verbaux directement. Il y a une cellule qui, lors d'un match de football, s'occupe exclusivement de ça, qui rédige les procès-verbaux. Mais le BCS, malgré qu'on ait accepté, entre guillemets, encore accepté dans le groupe, c'est très bien, s'il y a des événements, on rédigera les procès-verbaux. On visionne des images avec eux. Quand on a eu des affrontements contre Ajax Split, on les a convoqués au bureau, un par un, et ils ont été mis au courant. On a pris leur audition, voilà. Tu es reconnu, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est du classique. Mais bon, voilà, on montre les images, on prend l'audition, et on transmet le procès-verbal à celui du football du ministère, qui lui prendra les sanctions.
Le rôle de spotters est un travail de longue haleine. Il nécessite beaucoup de patience pour pouvoir intégrer les noyaux durs et se faire accepter par ses membres. Thierry Grandry est lui spotters à la police de Liège. S'il se félicite de la diminution des actes de violence dans les stades, il fait remarquer que cette diminution joue sur la relation des spotters avec les supporters violents.
Pour moi, il y a une frustration de la part des supporters à risque qui n'ont plus d'opportunité de se manifester comme ils le faisaient avant. Et ça, c'est un gros problème parce que quelque part, ça retombe sur nous, les spotters, parce qu'ils essaient de trouver des coupables à cette situation. Donc voilà.
Est-ce que ça, quelles conséquences ça a pour vous?
Des contacts moins bons, des relations qui se dégradent, des incidents minimes qui prennent des proportions assez grandes et qu'on ne comprend pas toujours, nous spotters. Donc voilà, c'est un peu dommage.
Vous êtes parfois agressé physiquement?
Non, c'est exceptionnel. Mais quand ça se passe, il y a un retour de manivelle, évidemment. Je crois que 99% des supporters à risque, même s'ils ne nous aiment pas, nous respectent et n'en viennent pas aux mains.
Mais la grande révolution dans la lutte contre le hooliganisme est arrivée en décembre 1998, avec le vote par le Parlement de ce qu'on appelle la loi football. Prenons un cas concret. Si un supporter est reconnu en train de faire un doigt d'honneur dans les tribunes d'un stade, ce geste peut être considéré comme étant de l'incitation à la haine. Le supporter en question encourt dès lors une amende de 250 € et 3 mois d'interdiction de stade. Les peines les plus sévères vont jusque 5 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de stade. Bertrand Finker.
La loi football, ça me semble clairement le gros événement qui a permis de réduire fortement les conséquences négatives du hooliganisme, même si on a sans doute, évidemment, pas tué les motivations et ce qui donnait envie aux gens d'aller se battre. Je veux dire, la recherche d'adrénaline, c'est pas une loi qui peut faire qu'on ne l'a plus. Et je pense qu'il n'y a pas que la loi de football non plus, il y a tous les règlements, je pense particulièrement au combi, réglementation combi, avec cette beaucoup plus grande difficulté qu'ont les supporters qui auront envie de s'affronter, puisqu'ils sont sur des itinéraires balisés, ils entrent dans le stade sans avoir pu rencontrer qui que ce soit, à part des barrières nadar et des camions de gendarmerie. Donc, on a réduit les opportunités, quoi. La loi football, elle a mis l'accent encore sur d'autres phénomènes, hein, les incivilités, les provocations, avec des flous aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est une incitation à la haine? On peut vite tomber sous le coup d'une incitation à la haine, parce que c'est un concept qui n'est pas vraiment défini. Et la loi football, bah, elle ne s'applique pas non plus qu'aux supporters, elle s'applique aussi aux organisations, aux clubs. Hein. Il y a pour des impératifs de sécurité, d'infrastructures à respecter. Donc ça aussi, ça concourt à pacifier, je veux dire, les matchs de foot. Ce n'est pas uniquement des mesures qui s'appliquent aux supporters.
C'est la cellule football du service public fédéral intérieur qui est chargée d'appliquer cette loi football. Son but est clair, éradiquer les incivilités dans les stades, et pour y arriver, elle prône la tolérance zéro.
C'est le message qu'on fait passer par rapport au service de police, c'est-à-dire que nous, on prône la tolérance zéro, parce que si jamais on laisse passer certaines choses ou certains faits qui, en se disant bah « oui, allez, ça fait partie du folklore footballistique » ou « oui, mais bon, vous savez bien, doigt d'honneur, c'est pas encore trop grave », si on n'arrête pas à un moment donné, on va dire, ce cycle infernal de provocation, réponse, contre-provocation, mais je pense que dans 10 ans, on sera toujours au même stade. Donc nous, vraiment, on cherche à mettre un signal clair par rapport à ces provocations. Le but, nous, vraiment, le leitmotiv à la cellule football, c'est de rendre le football festif et familial.
Cette tolérance zéro a comme résultat de faire exploser les statistiques concernant les incidents durant les matchs. Mais il faut pouvoir interpréter ces mêmes statistiques, comme le confirme Julien Van Bell, membre de la cellule football.
Donc on constate, et ça tout le monde s'accorde à dire cela au niveau statistique, que en fait on a une diminution très claire d'incidents graves et violents en groupe, plutôt au profit d'incivilités ponctuelles dans les stades, des cas de provocation verbale, gestuelle, les doigts d'honneur. Donc on a vraiment une augmentation statistique qui est vraiment à nuancer.
On constate une diminution de gros incidents au profit d'incidents mineurs. Cela veut-il dire que les hooligans purs et durs, ceux en constante recherche de confrontation, ont disparu des stades belges? En 2008, Thomas Bricmont, journaliste à Sportfoot Magazine, avait enquêté sur le noyau dur d'Anderlecht, le Brussels Casual Service. Il partage son avis sur la question.
En règle générale, on a ce sentiment, enfin, dans les médias ou enfin, la population, les supporters qui vont au stade, comme il n'y a plus beaucoup de bagarres, plus beaucoup d'événements autour du stade, autour du match même, on a ce sentiment que le phénomène du hooliganisme s'est évacué complètement, enfin s'est évaporé complètement. On va dire tant mieux. Reste que quand moi j'ai été voir ces gars-là, ils m'ont bien fait comprendre que c'était encore bien vivant. Quoi.
Les hooligans belges seraient donc toujours bien actifs dans notre pays, mais où se cachent-ils? Agissent-ils encore régulièrement? Pourquoi n'entendons-nous plus parler d'eux? Nous tenterons de répondre à ces questions dans la deuxième partie de notre émission. Nous partirons alors à la rencontre du BCS, le Brussels Casual Service. Next